France Musique.
Merci à vous Christophe Bourseiller, je vous dis à dimanche prochain, toujours à 17h, pour un nouveau numéro de Musicus Politicus. Les menus plaisirs de Bruno Mantovani. Bonjour à tous, chers auditeurs de France Musique. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mes menus plaisirs. En cette journée de la femme, je reçois une grande dame, membre du Conseil économique, social et environnemental, ancienne députée européenne. Oh, j'imagine que certains d'entre vous vérifient à cet instant qu'ils sont bien à l'écoute de France Musique et non pas d'une chaîne d'information en continu. Eh bien oui, vous êtes sur France Musique. En effet, la carrière politique de mon invité ne représente en fait qu'une infime partie de sa vie professionnelle et c'est une authentique musicienne que je reçois aujourd'hui. Cela étant, comme mon prédécesseur sur cette antenne nous l'explique chaque semaine, la musique est un art éminemment politique. Dans notre société de consommation et de divertissement, défendre le grand répertoire est un acte citoyen, une forme de résistance. Alors que la facilité l'emporte trop souvent sur la profondeur, jouer Mozart et Beethoven en 2015, c'est affirmer une vision de l'humanité, c'est s'engager politiquement. D'ailleurs, à la tête de l'orchestre qu'elle a fondé il y a quelques années, le Paris Mozart Orchestra, mon invité du jour n'hésite pas à réaliser une synthèse entre la recherche d'une perfection interprétative et la volonté de partager cela avec le plus grand nombre. C'est ainsi qu'elle amène les fantastiques musiciens qui composent cette formation que l'on pourrait qualifier de « All Stars » dans les écoles des banlieues défavorisées pour présenter aux enfants qui n'ont pas forcément accès à la musique classique des œuvres quelquefois très exigeantes. Une femme engagée, donc, une femme de transmission qui mène le combat de la démocratisation culturelle, certes, mais aussi le combat de la parité, cela tombe bien en ce 8 mars. Son orchestre est composé pour moitié d'hommes et pour moitié de femmes, et elle-même témoigne publiquement des résistances auxquelles elle a dû faire face pour s'imposer comme chef, alors que précisément, elle est une femme. Nous écouterons d'ailleurs avec elle plusieurs extraits dirigés par certaines de ses collègues chefs, ou d'autres écrits par des compositrices, comme c'est la règle aujourd'hui sur France Musique. Mais ces engagements généreux et humanistes ne doivent pas nous faire oublier que je reçois avant tout aujourd'hui une musicienne d'une grande élégance et d'une grande sensibilité qui fut adoubée par son mentor, un certain Claudio Abbado, et qui pratique avec le même bonheur le répertoire symphonique et l'opéra. Je suis heureux de passer en ce moment en votre compagnie et en celle de Claire Gibault. Bonjour Claire.
Bonjour Bruno.
Vous avez déjà envie de réagir, je sens, à ce petit portrait.
Non, mais c'est-à-dire que oui, je me sens avant tout une musicienne, je ne pense qu'à ça. Et c'est le milieu dans lequel je me sens comme un poisson dans l'eau. Et tout le reste est oublié.
Oh, mais on n'oublie jamais. C'est un petit peu comme la réexposition dans la musique classique. Elle se nourrit de tout ce qui a été donné dans le développement.
Absolument. Et c'est vrai que j'ai appris à mettre en forme mes conceptions d'une politique culturelle et savoir les défendre.
Je pense que c'est un petit peu comme la musicologie, en fait, la politique. Il y a un moment, il faut savoir ce qu'on en fait. Et en faire de la musique, c'est aussi, je trouve, une très très belle réponse à donner à, justement, à un milieu qui est quelquefois un tout petit peu déconnecté du sensible et déconnecté de ce qu'est l'essence même de ce à qui elle doit s'adresser, c'est-à-dire à l'humanité.
Mais là où je suis le plus à l'aise, c'est une politique pragmatique sur le terrain. Et je vous assure que échanger avec les adolescents de Mantes-la-Jolie ou de Corbeil-Essonne et leurs professeurs, c'est plus exaltant que de dialoguer avec de très hautes personnalités.
Je n'ai aucun doute là-dessus. Et on va peut-être arrêter ce débat tout de suite pour retrouver, non pas Claudio Abbado, mais Claudio Monteverdi. C'est un peu la journée des Claudio aussi. C'est la journée de la femme et des Claudio.
Non, mais c'était un petit clin d'œil. Le duc de Mantoue, je pense. Je me suis demandé si vous étiez un descendant. Un Mantovani.
Oh, et bien évidemment, c'est évident. Je ne pense pas, hélas. Donc on va écouter un extrait de l'Orfeo, dirigé par une de vos collègues que l'on aime beaucoup sur France Musique, Emmanuel Haïm. Parce que cet air d'Orphée, donc Possente Spirito, qui est un air en plusieurs volumes, j'allais dire en plusieurs volets, est une chose qui est peut-être, préfigure d'ailleurs une partie même de l'opéra français, je trouve, par ce côté très déclamatif.
Oui, en tout cas, il est considéré comme le premier opéra, mais il y a une liberté qui s'est perdue par la suite et qu'on retrouve peut-être de nos jours. En tout cas, moi, en ce moment, je transmets autour des métamorphoses d'Ovide et du mythe d'Orphée particulièrement à tous ces adolescents des collèges et lycées, mais aussi bientôt à la Philharmonie, une œuvre qui s'appelle Orfeo de Silvia Colasanti. Et je voulais vous dire que finalement, à cause de Monteverdi, que j'adore, de Gluck ou d'Offenbach, on a oublié que la fin est beaucoup plus heureuse que celle qui n'y paraît. Je peux vous lire la fin chez Ovide ?
Mais avec grand plaisir.
Alors, vous allez voir, c'est mon côté amoureuse et midinette, sans doute. « L'ombre d'Orphée descend sous la terre. » Ça, c'est à la fin, une fois qu'il a été déchiqueté par les bacchantes. Et il reconnaît tous les lieux qu'il avait vus auparavant. Puis, la cherchant dans les champs qu'habitent les âmes pieuses, il retrouve Eurydice et l'étreint passionnément. Ici, ils se promènent maintenant ensemble, parfois l'un à côté de l'autre, parfois elle le guide et il la suit, parfois c'est Orphée qui la précède, et désormais, sans avoir peur, il se retourne pour regarder son Eurydice.
Vaste programme.
Ah, c'est beau.
C'est magnifique pour finir ce week-end, je trouve.
C'est Suliane Braim qui est la récitante, cette magnifique actrice de la Comédie française. Et je dois dire qu'elle nous ensorcelle tous.
Alors, ça sera Jan Boustridge ici qu'on va écouter dans cet extrait de l'Orfeo, dirigé par Emmanuel Haïm à la tête de son concert d'Astrée. Thank you. C'était l'exceptionnel Jan Bostridge qui chantait cet extrait du troisième acte de l'Orfeo de Claudio Monteverdi avec l'accompagnement, si je puis dire, puisque la partie orchestrale est quand même extrêmement dense, du concert d'Astrée dirigé par Emmanuel Haïm. S'il y avait des élèves de composition, des jeunes compositeurs qui les écoutaient, on pourrait leur dire qu'entre les échos, l'espace, l'ornementation, les tapis, la juxtaposition, les dissonances, ils ont de quoi déjà faire un opéra moderne dans de l'ancien.
Et la liberté rythmique, le sens de l'improvisation, parce qu'il y avait quand même une grande liberté laissée aux chanteurs, et c'est ça qu'on a envie de retrouver aussi actuellement.
Je crois qu'il y a vraiment là, il y a une boîte à outils oui. de la composition musicale qui dépasse de très loin le cadre juste de ce premier opéra du début du XVIIe siècle, de la cour de Mantoue, et qui est vraiment, je pense, vraiment des fondamentaux en fait.
Oui, en tout cas, ça pose les bases que c'est une musique écrite pour les oreilles et pas pour le papier, et qui est là pour charmer et faire plaisir.
Moi, je vois un lien tout à fait direct entre ce premier extrait que vous avez choisi et le deuxième. Non pas parce qu'on troque un Claudio contre deux cette fois-ci, puisqu'il s'agira de Claude Debussy dirigé par Claudio Abbado, mais parce qu'il y a justement ce sentiment de liberté et de glorification de la parole et de la façon de dire choses, la prosodie en fait, puisqu'on va écouter la fin du quatrième acte de Péléas et Mélisande, avec en Péléas l'exceptionnel François Leroux qui incarne ce rôle mieux que personne.
Et qui l'apprend au chef d'orchestre d'ailleurs, moi je l'ai appris avec lui. Et c'est sublime d'avoir sous sa direction un chanteur.
Très joli lapsus Claire.
Ouais. Mais c'est un vrai chef François.
Il y a quelque chose aussi qui tient justement du fait que la musique semble complètement découler du texte. Or, la musique ici, elle est totalement incarnée, j'irais même plus par l'orchestre que par la ligne vocale elle-même.
Oui, en tout cas, moi, à chaque fois, je frémis en entendant les harmoniques dans l'aigu des premiers violons sous, on dirait, un fer rougi, par exemple. Ou quand le corps rentre sur, on dirait que ta voix est passée sur la mer. Il y a plein de... Ou les bois qui rentrent, je veux fuir. Enfin, il y a des explosions aussi de l'orchestration chez Debussy. me donne un plaisir extraordinaire. Mais ce qui est formidable pour un chef, c'est le sens de la construction dramatique avec ses élans, ses arrêts. Il faut monter, il faut être capable de partir de c'est le dernier soir jusqu'à la fin. C'est un vrai suspense, c'est une vraie construction pour le chef. Et là, c'est plus le chef au service des chanteurs, c'est vraiment le chef qui mène la trame et la dramaturgie de l'opéra. Et je l'ai dirigé beaucoup et c'est à chaque fois une plénitude extraordinaire.
Le dernier soir, il faut que tout finisse. J'ai joué comme un enfant autour d'une chose que je ne soupçonnais pas. J'ai joué en rêve autour des pièges de la destinée. Qui est-ce qui m'a réveillé tout à coup? Regarde bien cette fois-ci, il y a des choses que je ne me rappelle plus. On dirait pas maman qu'il y a 100 ans que je ne l'ai plus vue. Et je n'ai pas encore regardé son regard. Il ne me reste rien si je m'en vais ainsi. Et tous ces souvenirs, c'est comme si j'emportais un peu d'eau dans un sac de mousseline. Il faut que je la voie une dernière fois jusqu'au fond de son cœur. Il faut que je lui dise tout ce que je n'ai pas dit. Mélisande, est-ce toi? Mélisande, viens ici. Reste pas au bord du clair de lune. Viens ici, nous avons tant de choses à nous dire. Viens ici, dans l'ombre du tilleul.
Laissez-moi dans la clarté.
On pourrait nous voir des fenêtres de la tour. Viens ici, ici, nous n'avons rien à craindre. Prends garde, on pourrait nous voir. Qu'as-tu donc? Tu as pu sortir sans qu'on s'en soit aperçu.
Oui, votre frère dormait.
Il est tard, dans une heure on fermera les portes. Il faut prendre garde. Pourquoi es-tu venu si tard?
Votre frère avait un mauvais rêve. Et puis ma robe s'est accrochée au clou de la porte. Voyez, elle est déchirée, je l'ai perdue de ce verge.
Pauvre Mélisande, j'aurais presque peur de te toucher. Tu es encore hors d'haleine comme un oiseau pour chasser. C'est pour moi que tu fais tout cela. J'entends battre ton cœur comme si c'était le mien. Viens ici, plus près de moi.
Pourriez-vous?
Je ne ris pas, ou bien je ris de joie sans le savoir.
Je t'aime aussi. Tu dis Mélisande, je ne l'ai presque pas entendu. On a brisé la glace avec des fers rougis. Tu dis cela d'une voix qui vient du bout du monde. Je ne t'ai presque pas entendu. Tu m'aimes aussi, depuis quand m'aimes-tu ?
Depuis toujours, depuis que je t'ai vu.
Je ne puis pas le croire, Mélisande. Pourquoi m'aimerais-tu? Mais pourquoi m'aimes-tu? Est-ce vrai ce que tu dis? Tu ne me trompes pas, tu ne mens pas un peu pour me faire sourire.
Non, je ne mens jamais, je ne mens qu'à ton frère.
Oh, comme tu dis cela, ta voix. Ta voix, elle est plus fraîche et plus franche que l'eau. On dirait de l'eau pure sur mes lèvres. On dirait de l'eau pure sur mes mains. Donne-moi tes mains. Oh, tes mains sont petites. Je ne savais pas que tu étais si belle. Je n'avais jamais rien vu. J'étais inquiet, je cherchais partout dans la maison, je cherchais partout dans la campagne, et je ne trouvais pas la beauté. Et maintenant, je t'ai trouvé, je l'ai trouvé. Je ne crois pas qu'il y ait sur la terre une femme plus belle.
Maria Ewing en Mélisande, François Leroux en Péléas, l'Orchestre Philharmonique de Vienne et Claudio Abbad, et avec comme assistante Claire Gibault, mon invitée du jour, qui a bien connu cet enregistrement et cette production.
Oui, mais la première fois que Claudio Abbado a dirigé Péléas et Mélisande à Milan, il avait pris plus de 2 mois dans son emploi du temps, il s'était arrêté complètement. Il assistait à toutes les répétitions scéniques, en studio avec les chanteurs. Et il m'avait demandé d'être son assistante parce qu'en effet, j'avais une certaine expérience sur cette œuvre que j'avais dirigée à l'Opéra de Lyon. Et c'était un bonheur de travailler avec lui. Et c'est sublime le niveau d'interprétation auquel il arrive. Et quand j'entends ça, je me dis que Claudio était un révolutionnaire dans beaucoup de ses interprétations. Mais Debussy, quand on pense qu'au moment du prélude à l'après-midi d'un faune, il y avait en même temps les symphonies de Brahms, presque à quelques années près. Donc, quelle révolution dans le langage, c'est incroyable. Ça veut dire aussi qu'à cette époque, se juxtaposaient des styles extrêmement différents avec des talents immenses.
On le retrouvera un tout petit peu plus tard dans un enregistrement, je dirais, plus atypique sur un répertoire où on l'attend moins. Il y a quand même une chose aussi qui est extraordinaire dans ce qu'on vient d'entendre, c'est ce sens du suspense, de la mesure et puis, j'allais dire, de la retenue. C'est-à-dire, on pourrait très bien faire exploser l'orchestre quand il dit « je t'aime » et qu'il dit « je oui. t'aime aussi ». Et non, Debussy nous fait attendre. Il y a pour moi, c'est aussi l'incarnation du plaisir, l'attente.
Oui, et puis cette tendresse sous-jacente, voilà, ça c'est magnifique, oui.
Alors on va passer à une compositrice maintenant, c'est la règle aujourd'hui sur France Musique, mais je dirais, quand bien même ça ne serait pas la règle, on serait très heureux d'écouter cet extrait à la fin même de la lyre d'Orphée, on retourne à Orphée, oui. de la compositrice russe Sofia Gubaidulina, ici par Gidon Kremer et son ensemble qui n'est pas une camerata mais une cremerata.
Je trouve qu'on l'entend très peu en France, Sofia Gubaidulina, alors qu'elle est jouée par les plus grands orchestres du monde, qu'elle écrit en permanence et toute son histoire avec l'ex-Russie soviétique et comment elle s'est nourrie, elle s'est échappée des carcans pour arriver à ce langage. Et ce que j'aime, c'est que c'est très charnel, très affectif et en même temps très spirituel. C'est une vraie mystique aussi.
Décidément, Orphée pousse les compositeurs à déployer vraiment je dirais, tout le catalogue de ce qu'ils peuvent faire sur le plan de l'imagination. Si tout à l'heure, avec Monteverdi, on avait justement cette juxtaposition d'éléments si différents, là, dans cette fin de la Lyre d'Orphée, une pièce de Sofia Gubaidulina par Guidon de Crémer au violon et la Crémerata Baltica, on se rend compte qu'il y a aussi un foisonnement d'idées musicales qui est absolument incroyable.
Oui, et d'utilisation des instruments, des couleurs, de nouveaux instruments. Parce que très souvent, il y a des instruments plus rituels ou plus ethniques qui se mêlent dans la percussion et qui donnent des couleurs assez étranges. En tout cas, elle fait partie de ces grandes créatrices avec Katia Saariaho et on peut dire aussi Graciane Finzi qui vraiment nourrissent le monde de la création contemporaine.
France Musique. On a l'impression depuis le début de cette émission que vous évitez soigneusement leur musique romantique. Eh bien non, nous allons maintenant écouter de la musique de Franz Schubert, dirigée par vous-même en plus. Alors là, je vous laisse présenter cet extrait.
Donc, il s'agit d'un lied posthume de Franz Schubert, le pâtre sur le rocher, Der Hirt auf dem Felsen, originellement écrit pour soprano, clarinette et piano. Mais on n'a pas hésité à en faire une version avec orchestre à cordes, donc clarinette, chant et orchestre à cordes. Et vous allez entendre une version interprétée par Julie Fuchs, Romy Bischoff à la clarinette et puis le Paris Mozart Orchestra. Enfin, j'ai une vraie passion pour les leaders de Schubert. Et d'ailleurs, on donnera un concert à la Philharmonie le 5 juin avec les leaders orchestrés de Schubert. Et en soliste, ce sera la mezzo-soprano Aurore Hugolin. C'est vrai que ça correspond exactement au répertoire du Paris Mozart Orchestra, puisque c'est un orchestre qui peut aller de 11 à 43 musiciens. Donc, c'est le répertoire plutôt pré-romantique et la création contemporaine.
Je crois que ce qui est très important aussi, c'est que chez Schubert, la voix n'est pas toujours le vecteur du sens. Enfin, bien sûr, elle supporte le texte, mais c'est souvent au piano qu'il se passe des choses, qui se passe, je dirais, le suspense, la tension, les progressions. Si on prend les grands leaders, les grands tubes de Schubert, que ce soit Marguerite Rouet ou Le Roi des Aulnes, c'est souvent le piano qui porte la voix. Et je trouve que le fait d'orchestrer, ne serait-ce que par un orchestre à cordes, qui a un effectif homogène, ce genre de formule musicale renforce encore plus ce sentiment d'urgence. Moi, c'est une chose à laquelle je suis personnellement très sensible et je suis ravi d'écouter ça sous votre direction.
Thank you. Thank you.
Deux étoiles comme solistes, Julie Fuchs, soprano, et Romy Bischoff à la clarinette. Le Paris Mozart Orchestra, dirigé par sa fondatrice Claire Gibault, dans ce Pâtre sur le rocher, arrangé pour orchestre par Robert Fontaine. L'anecdote, c'est qu'on l'entend, si on tend bien l'oreille dans le générique même de cette émission, cette clarinettiste qui a beaucoup donné à la maison de la radio et à Radio France. C'était un concert qui était donné au Théâtre des Champs-Élysées le 26 mai 2014.
Oui, je me disais qu'en les écoutant, parce que j'adore cette pièce, Julie Fuchs m'avait raconté que son père était yodeleur en Suisse. Donc on entend vraiment dans son chant, titi, hop, hein, aussi bien à la clarinette que dans le chant de Julie, toute cette musique autrichienne est absolument typique.
Donc c'est presque une pièce autobiographique pour Julie Fuchs. Eh bien, maintenant qu'on a entendu le Paris Mozart Orchestra, on va finir cette émission par le Bologna Mozart Orchestra, ou plutôt l'Orchestre Mozart de Bologne, qui était un peu comme votre formation, une, je dirais, la fondation par un chef d'orchestre d'un instrument que le reste des formations internationales ne pouvaient lui offrir.
Je pense que Claudio Abbado voulait une totale liberté. Il voulait aussi ces orchestres où il n'y a que du désir et du plaisir et aucune autre forme de contrainte. Et puis, cette jeunesse, il aimait être entouré de ces jeunes musiciens. Ils avaient entre 20 et 40 ans. J'ai fait toutes les auditions. J'ai participé à la constitution de cet orchestre. Je l'ai dirigé moi-même. Et là, ce qui était extraordinaire avec l'humilité de Claudio Abbado, c'est qu'il ne cherchait pas à diriger les œuvres avec le plus grand nombre de musiciens autour de son nombril. C'est-à-dire que quand il le fallait, il dirigeait 6, 7, 8, 9, 10, 11 musiciens. Et c'est tout cet esprit dont j'ai essayé de m'inspirer. Et là, dans Bach, il y avait Giuliano Carmignola au premier violon. Ils ont tous pris des cordes en boyau, des archets classiques, et pour enregistrer ces brandebourgeois et tourner avec. Et je trouve que le tempo du troisième mouvement de ce troisième brandebourgeois est tellement dynamique, ça me met en joie quand je l'écoute. Et je dois dire que moi, j'écoute Bach tous les matins, quoi, en me levant. C'est mieux que plein d'autres choses, quoi.
Donc vous n'en finissez pas de repasser votre Bach, mais on aide beaucoup dans ce cas-là, hélas. J'espère qu'un jour, on réunira tous les Mozart Orchestra du monde et qu'on fera un magnifique concert où on jouera Bach de façon la moins authentique qui soit et la plus voluptueuse et la plus opulente. Allez, à propos d'opulence et de volupté, écoutons Claudio Abbado dans ce troisième brandebourgeois, le troisième mouvement uniquement. Thank you. C'était le troisième concerto brandebourgeois, on devrait dire BWV 1048, mais vu la vitesse, on va dire BMW 1048. Ce troisième mouvement était tellement trépidant sous la direction de Claudio Abbado qu'on a envie vraiment de passer à la vitesse supérieure, si je puis dire. C'est un merveilleux choix. Merci beaucoup, Claire, de nous avoir amené cette musique.
Merci, cher Bruno. C'était un vrai plaisir de passer cette heure avec vous. Et vous savez, vous m'avez vraiment convaincu que vous aimiez vraiment les femmes chefs d'orchestre et les femmes compositrices. Et ça, c'est, ça fait du bien.
Mais on aime les compositeurs, les compositrices, les chefs et les chefs-feu. On aime surtout la belle musique quand elle est bien faite.
Absolument.
Merci d'avoir écouté les menus plaisirs de Claire Gibault. Merci à toute mon équipe. L'attaché de production était Annie Comier, l'ingénieur du son Éric Boissé, et à la réalisation, nous avions Sylvain Richard. Dans quelques minutes, après les communiqués, vous retrouverez le journal de 19h, puis Édouard Fauré, Colfuti et ses carnets de voyage. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain, toujours à 18h sur France Musique, pour un nouvel opus de mes menus plaisirs. Au revoir.